Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse de ces divines consolations par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, avant que d'expliquer cette fin du chapitre 1er de Saint-Luc, qui est certainement un des plus beaux chapitres des Évangiles, un petit rappel de nouveau. Que la retraite du mois d'août, donc du 10 au 15 août, est pleine. Je ne peux plus accepter de retraitant cette retraite. Par contre, j'ai encore de la place aux trois autres retraites, 7 au 12 septembre, 26 septembre au 3 octobre et 19 au 24 octobre. Voilà, nous en sommes sur le polycopier à la page 13. Chapitre 1 de Saint-Luc, verset 46. Nous allons expliquer donc ce chant d'action de grâce de la Très Sainte Vierge Marie au moment où elle visite sa cousine Sainte Élisabeth. Je vous ai déjà dit que ce chant est très connu dans l'Église, une magnifique pièce de poésie religieuse issue du Saint-Esprit, puisque c'est le Saint-Esprit qui inspire évidemment cette louange de Notre-Dame à son Créateur et Seigneur, son Fils. Et que tous les jours, le prêtre redit ce magnificat à la fin de l'office de vêpres. Verset 46, Marie dit, « Mon âme glorifie le Seigneur. » Donc il faut remettre ce texte dans le contexte, justement. Nous avons déjà vu que Sainte Élisabeth a senti en son sein le tressaillement de son fils, Saint Jean-Baptiste, et elle fut elle-même toute remplie du Saint-Esprit. Et Sainte Élisabeth comprit donc d'abord son fils, j'ai déjà expliqué, notre Seigneur Jésus-Christ, par l'intermédiaire de la Très Sainte Vierge Marie, a sanctifié l'enfant dans le sein de Sainte Élisabeth, puisque la Très Sainte Vierge Marie est médiatrice de toute grâce. C'est par elle que passe le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit qui a rempli d'abord Saint Jean-Baptiste, puis ensuite sa maman, Sainte Élisabeth, est passé de Dieu à ses âmes par l'intermédiaire de la Sainte Vierge Marie. Elle est médiatrice de toute grâce, coopératrice en quelque sorte du Saint-Esprit, co-rédemptrice du genre humain. Évidemment, on voit très bien dans le texte que Sainte Élisabeth s'est rendue compte. La preuve, c'est qu'immédiatement, elle s'exclame « Vous êtes bénie » en parlant entre Sainte Vierge Marie. « Vous êtes bénie entre toutes les femmes et le fruit de votre sein est béni. Et d'où m'est accordé que la mère de mon Seigneur vient à moi. » Donc elle a reçu une lumière extraordinaire du Saint-Esprit au moment précis où elle voit, où la Très Sainte Vierge Marie arrive chez elle. Elle entre dans la maison de Zacharie, salue Élisabeth. À ce moment-là, Élisabeth sent le tressaillement de son fils dans son sein. Elle comprend qu'elle est elle-même remplie du Saint-Esprit. Et à cause de ce Saint-Esprit qui travaille en elle, eh bien, elle comprend que sa cousine a été choisie par Dieu pour devenir la mère du Sauveur. Et elle n'en éprouve aucune jalousie, au contraire. Toute heureuse de le savoir, d'où m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne à moi. On voit aussi cette extraordinaire humilité de la Très Sainte Vierge Marie, qui est déjà traitée
de bienheureuse. Vous êtes bienheureuse d'avoir cru, car c'est ce qui vous a été dit de la part, ce qui vous a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. La Très Sainte Vierge Marie va exploser littéralement dans une prière d'action de grâce. Elle renvoie tout de suite à notre Seigneur Jésus-Christ. Mon âme glorifie le Seigneur et mon esprit a tressailli d'allégresse en Dieu mon Sauveur parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Alors voyons un petit peu ce qu'en disent les pères. Donc page 13 sur le polycopier. Notre-Dame seule peut parler de mon âme car elle l'a en son pouvoir et la domine, la possédant dans la patience, maîtrisant ses affections, ses passions, son âme étant totalement donnée à son Fils. Pourquoi son âme est totalement donnée à son Fils? Parce qu'il n'y a pas d'obstacle au travail de la grâce dans la Très Sainte Vierge Marie, dans l'âme de la Très Sainte Vierge Marie. Il n'y a pas d'obstacle au travail de la grâce dans son cœur, dans son intelligence, dans sa volonté. Tout en elle est consacré à Dieu, puisqu'elle n'a pas le péché originel. Nous, même après le baptême, on a malheureusement en nous une espèce de révolte permanente. N'oublions pas, que je vous l'ai déjà expliqué bien souvent, c'est l'enseignement de saint Thomas, que même après le baptême, même si le péché originel en tant que tel disparaît, effacé par le baptême, il reste les conséquences, il reste les blessures, il reste l'ignorance, la concupiscence, la faiblesse, la malice. Eh bien, cette concupiscence n'existe pas en Notre-Dame. Cette faiblesse, cette malice n'existe pas, cette ignorance n'existe pas en Notre-Dame, puisqu'elle n'a pas le péché originel. Et donc, il n'y a aucun obstacle à la grâce. En nous, c'est un combat constant, si vous voulez, un combat constant qui va exister aussi en Sainte Élisabeth, puisqu'elle n'est pas Immaculée Conception, un combat constant, d'un côté la volonté du bon Dieu, et d'autre côté notre volonté propre, qui est toujours en opposition à la volonté du bon Dieu. C'est pour ça que je suis tenté toujours de faire ce que le bon Dieu ne veut pas que je fasse. Je sais très bien ce qui est bien, ce qui est mal, et à cause de cette tendance, ce que saint Thomas d'Aquin appelle le fomex peccati, ce foyer de péché qui est en nous, même après le péché originel, eh bien, il y a un combat, c'est ce qu'on appelle le combat spirituel, ma volonté contre la volonté du bon Dieu, ma volonté propre contre la volonté du bon Dieu. Eh bien, ce combat n'existe pas à la Très Sainte Vierge Marie. La Très Sainte Vierge Marie gagne son ciel, strictement parlant, sans ce combat, parce que, justement, elle n'a pas le péché originel. Alors que pour nous, la situation est tout à fait différente. Nous devons gagner notre ciel par le combat. Alors attention, de là à dire que la Très Sainte Vierge Marie n'a aucun mérite parce que justement elle n'a pas eu de péché originel. Attention, la Très Sainte Vierge Marie a un mérite extraordinaire parce que justement elle est co-rédemptrice du genre humain. Elle est co-rédemptrice du genre humain, pas de n'importe comment. Parce qu'en devenant la mère de Dieu, la mère de son Fils, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, elle accepte de participer en tant que co-rédemptrice, en tant que médiatrice de toute grâce, à participer au salut du genre humain par la croix. Donc ça veut dire qu'elle va porter la croix. De la même façon que notre Seigneur Jésus-Christ, tout en étant Dieu, va souffrir le martyre pendant sa passion, parce que il a un corps humain encore plus sensible que le nôtre, parce que ce corps humain est parfait en lui. La Très Sainte Vierge Marie va donc devoir participer à cette passion, elle va souffrir à tel point qu'elle est appelée reine des martyrs. Non seulement mère de l'Église, mère de Dieu, mais reine des martyrs. Nous, au contraire, nous ne possédons pas notre âme parce que nous sommes sous le pouvoir de la colère, de l'orgueil, de la concupiscence et des autres passions. Plus on aime Dieu, plus on aime son âme. Et moins on aime Dieu, moins on aime son âme. Notre âme est notre moyen normal d'atteindre Dieu. On atteint Dieu par notre âme. Lorsque Dieu nous dit que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu par notre âme, pas par notre corps. Attention. Et donc les concupiscences, la colère, l'orgueil, concupiscence des yeux, de la chair, l'orgueil, sont pour nous des obstacles qui nous empêchent de posséder Dieu de façon parfaite. Il faudra attendre d'être au ciel. Ce n'est qu'au ciel que nous pourrons posséder Dieu de façon parfaite, au moins à notre niveau. Certes, on ne peut pas posséder Dieu tel que Dieu se possède lui-même, puisqu'il faudrait Dieu pour cela. Mais au ciel, on n'aura plus les blessures, qui sont des obstacles. Voilà pourquoi la vie spirituelle est un combat. C'est ce qu'on oublie. On a toujours une petite tendance, un petit démon qui va nous pousser à demander cette grâce au bon Dieu qu'il ne peut pas nous accorder parce qu'elle est impossible, à savoir d'aller au ciel sans combat. Les pères de la Guise font tous remarquer que les seules personnes qui sont dispensées de ce combat sont ce qu'on appelle les voleurs de paradis. Les voleurs de paradis sont les enfants morts juste après le baptême. Un enfant qui meurt juste après le baptême, par un don extraordinaire de Dieu, est dispensé de ce combat. Il peut aller directement au ciel. Mais ce n'est pas le cas pour nous. Donc mon âme glorifie le Seigneur en Dieu mon Sauveur. Donc Dieu représente la puissance. Le Sauveur représente la miséricorde. Donc l'incarnation du Verbe représente l'œuvre l'œuvre divine dans toute sa puissance, toute sa bonté, toute sa patience, disent les pères. L'incarnation du Verbe est certainement la plus belle œuvre de Dieu. On peut discuter de savoir si la plus belle œuvre de Dieu est l'incarnation ou la rédemption. En fait, on ne peut pas séparer les deux, parce que l'incarnation a pour but direct la rédemption. S'il n'y avait pas eu d'incarnation, il ne pourrait pas y avoir de rédemption. Et s'il n'y avait pas de rédemption, l'incarnation n'aurait pas été nécessaire, strictement parlant. Et donc, l'incarnation et la rédemption sont en fin de compte une seule et même œuvre. Il y a deux étapes, si vous voulez, dans cette œuvre. La première œuvre, c'est l'incarnation, l'union dans la personne du Verbe de Dieu, dans la personne de la seconde personne de la Sainte Trinité, entre Seigneur Jésus-Christ, à la fois de la nature humaine et de la nature divine, pour amener à la rédemption. On ne peut pas séparer les deux. Parce qu'on parle, si vous voulez, des trois grands mystères, la Sainte Trinité, l'incarnation et la rédemption. Bon, on sépare ces mystères pour des raisons didactiques, pour nous faire comprendre certaines choses. Mais strictement parlant, le mystère de l'incarnation et le mystère de la rédemption ne sont qu'un seul et même mystère, dans le sens qu'ils sont tellement liés qu'on ne peut pas les séparer. Donc, Dieu représente la puissance. Le mot Dieu représente la puissance, le mot Sauveur représente la miséricorde. Dieu est à la fois, notre Seigneur Jésus-Christ, à la fois puissance et miséricorde. La puissance, il va la manifester par sa divinité. La miséricorde, il va la manifester par l'acceptation de la croix, l'acceptation de la souffrance. Donc cette incarnation représente l'œuvre divine de la plus haute puissance. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas, il y a rien de plus grand que d'unir Dieu à l'homme, disent les pères, d'unir Dieu et l'homme, le ciel et la terre, l'esprit et la chair, l'infini et le fini. Notre Seigneur Jésus-Christ, tout en étant Dieu, accepte d'unir son infinité à notre élément fini, qui est notre corporalité, qui est notre humanité. Notre humanité est quelque chose de fini. Donc Dieu, tout en étant infini, accepte d'unir cette infinité qui est en lui avec le fait que nous soyons finis. Donc il limite en quelque sorte, par son union avec notre divinité, avec notre humanité, pardon, il va limiter en quelque sorte. On pourrait croire en tout cas qu'il va limiter sa divinité. Eh bien non, parce que notre Seigneur Jésus-Christ, tout en étant parfaitement homme, est en même temps parfaitement Dieu. Là, on touche à un mystère invraisemblable. Donc il faut bien voir ici qu'on comprend ce que disent les pères, en haut de la page 13, sur le polycopier. Donc cette action de grâce de Notre-Dame vient du fait que par son incarnation en elle, la Très Sainte Vierge Marie, par l'incarnation de son Fils en elle, la Très Sainte Vierge Marie voit, comprend l'union extraordinaire de Dieu et de la divinité de l'humanité. Le ciel et la terre se rencontrent, l'esprit et la chair, l'infini et le fini. Cette incarnation manifeste aussi non seulement la puissance, mais encore la bonté de Dieu. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour sauver ce qu'on aime. Et donc l'incarnation a pour but la rédemption. Donc l'incarnation vise le don total de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, le Vendredi Saint. Et les pères disent aussi que cette incarnation manifeste la plus grande patience. Pourquoi ? Parce que, disent-ils, à cause de la nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, tout en restant Dieu, accepte d'humilier en quelque sorte sa divinité jusqu'au niveau de l'homme. Ça prouve non seulement un degré de puissance, un degré de bonté, un degré de grandeur, mais en même temps une patience extraordinaire. Donc la Très Sainte Vierge Marie va louer Dieu pour les bienfaits qu'elle a reçus. Voilà pourquoi on appelle cette prière, le Magnificat, Magnificat, Magnificere, faire des merveilles. Magnificat, c'est celui qui remercie pour les merveilles qui ont été faites en lui. Donc, par le Magnificat, la Vierge loue Dieu pour les bienfaits qu'elle a reçus, mais aussi pour ceux donnés au peuple. Tata Sainte Vierge Marie est l'instrument de la divinité unie à l'humanité en son sein, mais la Tata Sainte Vierge Marie est aussi l'instrument du don de cette divinité aux hommes. Notre Seigneur Jésus-Christ se donne aux hommes par l'incarnation et par la Très Sainte Vierge Marie. C'est par sa mère qu'il se donne à nous. Il aurait pu se donner directement à nous. Non, il a voulu se donner par son intermédiaire, parce que la Très Sainte Vierge Marie est comme, encore une fois, l'aqueduc entre Dieu et l'homme, le ciel et la terre, l'esprit et la chair, l'infini et le fini. Donc Dieu, disent les pères, est glorifié par une âme créée à son image lorsqu'elle est en état de grâce et qu'elle se conforme à la justice divine. Donc, lorsque nous sommes en état de grâce, nous avons en nous la charité, nous avons donc en nous l'habitation de la Sainte Trinité. Donc, en état de grâce, on peut dire que toute personne en état de grâce se renouvelle constamment en son âme l'incarnation, la rédemption. Que l'état de grâce, c'est quoi? C'est le fruit direct du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix pour nous. C'est parce que notre Seigneur Jésus-Christ est mort pour moi sur la croix que je peux être en état de grâce. Sinon, je serai en enfer plus longtemps. Donc, l'état de grâce signifie, exactement, l'état de grâce n'est possible que lorsque je suis en état d'obéissance à Dieu. C'est-à-dire lorsque je suis, disent les pères, conforme à la justice divine en moi. Dieu a une volonté manifestée, c'est les commandements, mais il a aussi une volonté de bon plaisir qui nous est manifestée en quelque sorte, cette fois-ci, par les circonstances. Et Dieu demande pas simplement l'obéissance à la volonté manifestée, mais également l'obéissance à la volonté de bon plaisir, qui est peut-être plus difficile à remplir que la première. Verset 47 du chapitre 1 de Saint-Luc, « Mon esprit m'a tressailli d'allégresse en Dieu, mon Sauveur. » Si, disent les pères, selon la chair, il n'y a qu'une mère du Christ selon la foi, Jésus le fruit de tous les cœurs. Toute âme, en effet, conçoit le Verbe de Dieu à la condition qu'elle soit pure, exempte de tout vice et qu'elle conserve sa chasteté sous la garde d'une pudeur inviolable. Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Quand je suis en état de grâce, je renouvelle constamment cette conception du Verbe de Dieu en moi. De la même façon que la Très Sainte Vierge Marie a conçu dans son sein la deuxième personne de la Sainte Trinité, en quelque sorte, unie à l'humanité qui venait de son propre corps, de le corps de la Très Sainte Vierge Marie. De la même façon que la Très Sainte Vierge Marie a conçu par le mystère de l'incarnation la divinité en elle, nous faisons la même chose à chaque fois que nous retrouvons l'état de grâce. Je vous l'ai déjà expliqué, ça c'est très beau hein, comme image. À chaque fois que j'efface le péché qui avait mis dehors le bon Dieu par une bonne confession, par un acte de contrition parfaite, je renouvelle le mystère de l'incarnation. Et d'un certain côté, on peut même dire qu'à chaque fois, je commets une faute grave. Je renouvelle cette fois-ci le mystère de la rédemption. C'est-à-dire que je renouvelle le mystère de la rédemption, mais pas du côté de notre Seigneur Jésus-Christ. Je renouvelle le mystère de la rédemption du côté des Juifs. Parce que chaque fois que je commets une faute grave, eh bien, c'est comme si je prenais moi-même le fouet des mains des bourreaux pour frapper moi-même. Rappelez-vous ce que disait le Saint Curé d'Ars, chaque fois que je commets une faute grave, je recrucifie notre Seigneur Jésus-Christ sur l'autel de mon âme. Ici, il y a certains termes qui sont utilisés par les pères qui sont beaux. Le Sauveur fait de Notre-Dame une fenêtre, un escalier, une restauratrice. D'abord la fenêtre du ciel, car par elle, Dieu répand la lumière sur le monde. Donc c'est pour ça que les pères ont comparé la Sainte Vierge pas simplement à une fenêtre, mais aussi à un aqueduc, je vous l'ai déjà dit. Il compare aussi la Très Sainte Vierge Marie comme fenêtre du ciel à l'ouverture de l'arche de Noé. Et l'escalier du ciel, parce que par lui descend, Dieu descend sur la terre et les élus montent au ciel, c'est les ciels de Jacob. Jacob qui voit ses anges descendre et remonter d'une échelle mystérieuse entre Dieu et l'homme. Cette échelle mystérieuse est aussi représentée par la très sainte Vierge Marie, parce que c'est la très sainte Vierge Marie qui va servir en quelque sorte d'échelle à la divinité pour descendre jusqu'à nous. Notre Seigneur Jésus-Christ descend du ciel en tant que Dieu en utilisant la très sainte Vierge Marie comme un marchepied littéralement. Et elle n'est pas simplement fenêtre du ciel, escalier du ciel, est aussi restauratrice de la femme. De la même façon que la première Ève a amené la malédiction sur le monde, la deuxième Ève va ramener la bénédiction sur le monde, donc va racheter la malédiction d'Ève. Les pères de l'Église font remarquer que Ève et Ave sont presque identiques. Eva et Ave en latin. Eva, c'est le nom d'Ève en latin. Ave, c'est la première parole de l'ange Gabriel à la très sainte Vierge Marie. Ave Maria, gratia plena. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Donc l'Ave, A-V-E, qui est le contraire dans l'ordre des lettres du mot Eva, E-V-A, montre que la très sainte Vierge Marie vient détruire la prévarication et la malédiction qu'Ève avait apportée sur le monde. Et cela doit nous aider à comprendre la dignité extraordinaire de la très sainte Vierge Marie. Et elle continue, verset 48, « Il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Voici que désormais toutes les générations me diront bienheureuse. » On voit l'extraordinaire humilité de la très sainte Vierge Marie qui aurait pu, si vous voulez, se glorifier, s'honorer du choix que Dieu avait fait d'elle pour devenir la mère de Dieu. Eh bien non, elle se rabaisse pour bien montrer que tout ce qui est en elle de bon vient de Dieu. Pour nous, tout ce qui est en nous de bon vient aussi de Dieu, mais malheureusement, en nous, on a aussi du mauvais. Et si ce qui est en nous de bon vient de Dieu, il faut aussi rajouter, hélas, que tout ce qui est en nous de mauvais vient de notre propre fond. Chez la très sainte Vierge Marie, c'est différent, parce qu'en elle, tout est bon, puisqu'elle n'a pas le péché originel. Donc, tout en elle vient de Dieu, ce qu'on ne peut pas dire pour chacun d'entre nous. L'homme ne peut pas dire tout en moi vient de Dieu. Non, le péché ne vient pas de Dieu, vient de moi. La très sainte Vierge Marie, donc unique créature avec notre Seigneur, capable de dire tout en moi est bon. Mais au lieu de s'enorgueillir en disant tout en moi est bon par ma propre force, non, la très sainte Vierge Marie explique bien que tout en elle est bon parce que Dieu a pris en miséricorde, a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Voilà pourquoi désormais, dit-elle, toutes les générations me diront bienheureuse. Donc c'est par l'orgueil de notre premier père que la mort est entrée dans le monde. Il est juste donc que les voies qui conduisent à la vie nous fussent ouvertes par l'humilité de Marie. Donc la deuxième Ève rattrape la prévarication de la première Ève. Le deuxième Adam, notre Seigneur Jésus-Christ, va rattraper également le péché du premier Adam. Là, il y a une très belle phrase des pères, au milieu de la page 13, sur le polycopier. Le même homme qui se sépare de Dieu par le péché se soumet à lui par l'humilité quand il retourne à la pénitence. L'homme est grand quand il sait se mettre à genoux. Et c'est le drame du monde moderne. L'homme moderne est incapable de se mettre à genoux. Il renouvelle le blasphème de Lucifer. Je ne servirai pas. Lucifer a refusé de se mettre à genoux. Ben maintenant, il est à genoux constamment devant Dieu en enfer. Hein. Il est bien obligé. L'homme moderne est comme ça. Refus catégorique de l'homme moderne de se reconnaître comme créature. Voilà pourquoi ça m'a toujours beaucoup frappé dans l'ouverture des exercices de Saint Ignace. La première phrase de Saint Ignace, l'homme a été créé. Saint Ignace commence ainsi ses exercices. L'homme a été créé pour louer, honorer et servir Dieu par ce moyen de sauver son âme. L'homme a été créé. L'homme a été créé, c'est-à-dire que l'homme étant dans un état de créature est ipso facto immédiatement dans un état de dépendance. L'homme est créé parce qu'il est créé. Il y a donc un créateur au-dessus de lui. Il est créature. Étant créature, il a des devoirs. Donc c'est la première chose qu'il faut comprendre pour entrer dans les exercices. Je suis dans un état de dépendance parce que j'ai des devoirs par rapport à Dieu qui, étant créateur et rédempteur, a des droits sur moi. Donc la première chose qu'il faut expliquer aux retraitants, quand on commence l'exercice de Saint Ignace, c'est de mettre un petit orgueil dans la poche avec le mouchoir par-dessus, hein, parce que pendant l'exercice, on va parler des droits de Dieu et pas du tout des droits de l'homme. L'homme a des devoirs. Et c'est le drame de la Révolution française. La Révolution française a voulu diviniser l'homme et donc transformer la nécessité des devoirs de l'homme par rapport à Dieu. Il a voulu transformer cette nécessité en droit strict de l'homme de devenir Dieu et donc de décider par lui-même ce qui est bien, ce qui est mal. C'est l'ouverture à l'erreur fondamentale de la liberté de conscience. C'est toute la révolution de 1789, la révolution qui est en train de détruire complètement notre pays, c'est quoi? Le mouvement, tous les mouvements modernes d'aujourd'hui, le mouvement des Black Lives Matter, le mouvement des droits des LGBT, le mouvement des droits à l'avortement, le mouvement, tous ces mouvements modernes dans le monde d'aujourd'hui, surtout en France, c'est quoi? C'est tout simplement l'homme qui se dresse devant Dieu en disant « je ne servirai pas ». C'est donc l'homme qui refuse de se mettre à genoux. Voilà pourquoi on voit très bien dans l'exercice Saint-Ignace, c'est la grandeur des exercices, c'est la force de l'exercice, c'est que on ne peut pas expliquer aux retraitants toute une série de choses, à commencer par le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, sans d'abord avoir humilié le retraitant par la préparation d'une bonne confession générale. La confession générale étant un acte d'humilité va rouvrir les portes qui empêchaient le bon Dieu de rentrer dans notre âme. La porte de notre âme est rouverte par l'humiliation de la confession. À partir du moment où le retraitant accepte de se mettre à genoux devant Dieu en disant à Dieu ou à son représentant « Pardonnez-moi Seigneur parce que j'ai péché » et qu'il accuse tous ses péchés avec un degré de contrition important, avec une accusation complète, avec une réparation, un désir de réparation, à ce moment-là, tous les obstacles sautent et l'amour du bon Dieu peut revenir dans cette âme. Et donc après les confessions, au milieu du troisième jour de la retraite, eh bien à ce moment, qu'est-ce qui se passe? Après les confessions, on peut commencer à parler, à rentrer en vie illuminative. On ne peut pas rentrer en vie illuminative, on reste en vie purgative tant qu'on n'a pas pratiqué cette vertu d'humilité. Au moment où on s'humilie devant Dieu, en disant, voilà, le bon Dieu a jeté sur moi, comme sur Sainte Vierge, ses yeux sur la bassesse de son serviteur, alors que nous, on est pécheurs, alors que la Sainte Vierge Marie ne l'est pas, et bien à cet instant précis où j'accepte de m'humilier, j'accepte de m'agenouiller, au moment précis où je m'agenouille, à ce moment-là, je deviens grand devant Dieu. Et Dieu, voyant cet acte d'humilité, peut rentrer dans mon cœur et achever le nettoyage de mon cœur par l'absolution sacerdotale. Et à ce moment-là, l'homme, le retraitant, sera capable de rentrer en vie illuminative, recevoir toutes les lumières du Saint-Esprit pour se préparer à la vie unitive avec l'arrivée de la Passion. Donc le même homme qui se sépare de Dieu par le péché se soumet à lui par l'humilité quand il retourne à la pénitence. Donc par la pénitence, l'homme recolle en quelque sorte ce qu'il a décollé. Par la pénitence, l'homme refait, si vous voulez, la chaîne qui doit l'unir à notre Seigneur Jésus-Christ. L'homme moderne veut être indépendant de Dieu et donc coupe la chaîne, le cordon ombilical qui l'unit à Dieu. Mais l'homme moderne est tellement bête qu'il ne se rend même pas compte qu'en coupant le cordon ombilical qui l'unit à Dieu, il se coupe de l'auteur de la vie, donc il meurt. Imaginez un enfant dans le sein de sa mère qui se prétend tellement indépendant qu'il ne veut plus recevoir sa nourriture, son oxygène du sein de sa mère par le cordon ombilical, qui dit « moi je suis indépendant, je coupe le cordon ombilical ». Je ne veux vivre par moi-même, je n'ai pas besoin de ma mère pour vivre. Mais qu'est-ce qui se passe? Il meurt. Il meurt immédiatement. Et on le voit très bien aussi, même après la naissance corporelle, le bébé est totalement dépendant de sa mère. Si la mère ne nourrit pas le bébé immédiatement de son sein, de son propre lait, eh bien l'enfant va mourir. Donc il faut méditer sur ces paroles magnifiques des pères. Autre parole magnifique des pères de l'Église, notre Seigneur Jésus-Christ a fui quand les hommes ont voulu faire de lui un roi. Mais quand il est recherché pour être méprisé et crucifié, il ne s'enfuit plus, mais s'offre librement. Pour cela, nous disent les pères, que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu littéralement mourir au centre du monde de l'époque, à savoir Jérusalem. Il a voulu vivre, il a voulu mourir, être humilié, être vilipendé, être traité comme le dernier des esclaves, dans une grande ville devant une population énorme. Alors qu'au contraire, sa naissance est une naissance toute humble à Bethléem devant pratiquement personne. Alors qu'au contraire, sa mort, elle est publique. On pourrait presque dire que la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ est privée et la mort est publique, pour bien montrer justement que notre Seigneur Jésus-Christ, par cette acceptation de l'humiliation de l'incarnation, parce que c'est une terrible humiliation pour notre Seigneur Jésus-Christ, par acceptation de cette humiliation, notre Seigneur Jésus-Christ va rattraper l'orgueil de l'homme moderne. Dieu regarde la terre et la fait trembler, mais quand il regarde Notre-Dame, il la remplit par ses grâces, de ses grâces. L'humilité est le trésor, la racine et le fondement le plus sûr de toutes les vertus et représente le plus grand sacrifice. C'est pour cela que les pères de l'Église disent que l'humilité est le terreau de toutes les vertus. On a une rose magnifique dans notre âme qui s'appelle la rose de la charité, qui est une fleur splendide, mais cette fleur ne peut pas naître, ne peut pas bourgeonner et fleurir et s'épanouir sans le terreau de l'humilité. Il faut le terreau de l'humilité, à savoir que la graine de l'état de grâce soit plantée dans le terreau de l'humilité pour que le terreau de l'humilité puisse transmettre sa vitalité à la graine qui va se développer et donner une rose magnifique. Donc l'humilité a toujours été le trésor, la racine, le fondement le plus sûr de toutes les vertus. S'il y a l'humilité, il y a la sainteté. S'il n'y a pas d'humilité, même s'il y a des miracles, il n'y a pas de sainteté. N'oublions pas que Judas a fait des miracles. Puisque Dieu avait donné le don des miracles, le privilège de faire des miracles à tous ses apôtres, y compris à Judas. Judas a fait des miracles. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait un miracle que ça veut dire qu'il est saint. La sainteté, c'est quoi? C'est le fait de remplir les vertus, d'être vertueux de façon héroïque. L'héroïcité des vertus, c'est ça qui fait la sainteté. C'est pas le miracle. Le miracle peut être une preuve de la sainteté de quelqu'un, mais c'est pas le miracle qui fait la sainteté, c'est l'obéissance, donc l'humilité. Il n'y a pas d'obéissance sans humilité. Et les pères de l'Église, après, expliquent pourquoi la très sainte Vierge Marie est bienheureuse. Voici que désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Parce qu'elle a cru, parce qu'elle est pleine de grâce. Elle a cru, s'exclame Sainte Élisabeth. Sainte Élisabeth l'a dit expressément, c'est au verset 45. Vous êtes bienheureuse d'avoir cru, car ce qui vous a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Donc la Sainte Vierge Marie est grande d'abord parce qu'elle a cru. Saint Zacharie n'a pas cru à la parole de l'ange et donc a été puni. Il est devenu muet justement à cause de son manque de foi. La très sainte Vierge Marie, au contraire, a cru immédiatement et c'est ça que sa grandeur. C'est parce qu'elle a cru qu'elle est devenue bienheureuse. Vous êtes bienheureuse d'avoir cru. Elle est pleine de grâce. Ça, c'est la parole de l'ange. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Et la Sainte Élisabeth va redire la même chose, pratiquement avec les mêmes paroles. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et le fruit de votre sein est béni. Donc la Sainte Élisabeth ne fait que confirmer la parole de l'ange. Non seulement elle est pleine de grâce, mais le fruit de ses entrailles est béni. Notre Sainte Vierge Marie est fruit de la grâce. Notre Seigneur Jésus-Christ est l'auteur de la grâce. La très sainte Vierge Marie est également bienheureuse parce que le Tout-Puissant a fait pour elle des merveilles. Elle est mère du Sauveur. Sa maternité divine, je vous l'ai déjà expliqué, est la plus grande de ses prérogatives. Elle est mère de Dieu. Et parce qu'elle est mère de Dieu, le bon Dieu a voulu associer à la très sainte Vierge Marie deux choses qui, en principe, sont incompatibles. La fécondité et la virginité. Elle est féconde. Non seulement elle est mère de Dieu, mais elle est mère de tous les vivants, elle est mère de tous les hommes. Étant mère de Dieu, elle devient également mère de tous les hommes. Tous les hommes deviennent enfants de Dieu. Et donc la Sainte Vierge Marie est notre mère. Nous avons deux mères, une mère physique ici-bas sur la terre et une mère au ciel. La Sainte Vierge Marie. La Sainte Vierge Marie, donc, par sa virginité, trouve la fécondité spirituelle. Elle obtient aussi, disent les pères, pour toute la génération, la vie pour les morts, la grâce pour les pécheurs, la gloire pour ceux qui souffrent peine. Encore une fois, elle est l'actuc de toutes les grâces. Et parce qu'elle est l'actuc de toutes les grâces, elle va amener la mort, la vie aux, à ceux qui étaient morts, la grâce à ceux qui étaient morts dans le péché, et la gloire à ceux qui souffraient, et les amener au paradis. Pour cela qu'on dit que la Sainte Vierge Marie est à la porte du paradis pour introduire au paradis des âmes qui sont en état de grâce, qui se présentent à cette porte. Passons à la page 14 sur le polycopier. Vous voyez que cette Magnificat et tout le chapitre 1 en fait de Saint-Luc est un chapitre extrêmement, extrêmement important avec beaucoup de commentaires des pères. Et là, je ne vous en donne que toute petite partie. Saint-Luc chapitre 1 verset 49. « Parce que celui qui est puissant a fait en moi de grandes choses et son nom est saint. » Notre Seigneur Jésus-Christ est... Il est plus que puissant, il est le tout-puissant, puisqu'il peut tout faire. Attention, il peut tout faire, sauf il ne peut pas se contradire lui-même. Le bon Dieu ne peut pas faire un cercle carré, ce n'est pas possible. Le bon Dieu ne peut pas faire un homme qui n'est pas une âme, parce qu'un homme, par définition, c'est l'association d'un corps et d'une âme. Hein? Et même on peut aller plus loin que ça, Dieu, dans sa miséricorde, même dans l'exercice de sa miséricorde, ne peut pas mener au ciel quelqu'un qui meurt dans le péché mortel. Il peut obtenir que cette personne qui est dans le péché mortel avant sa mort puisse se convertir même au dernier moment à la fumée des cierges. C'est le cas par exemple de Saint Dismas qui s'est converti juste avant de mourir. Ça c'est possible, oui. Mais ce qui n'est pas possible, c'est qu'une personne qui meurt en état de péché mortel puisse aller au ciel, ça c'est pas possible. Dieu ne peut pas se contredire. Là, il y a cette belle phrase aussi, page 14 des Pères de l'Église, que je vous ai déjà citée, je pense. L'incarnation du Verbe est une plus grande œuvre que la création du monde tout entier. Et donc, disent les Pères, la Très Sainte Vierge Marie est plus grande que tous les anges, tous les hommes et toutes les créatures prises ensemble. Et d'autres Pères disent que l'amour de la Très Sainte Vierge Marie, à cause de ça, l'amour de la Très Sainte Vierge Marie pour ses enfants, à savoir nous-mêmes, nous les hommes, l'amour de la Très Sainte Vierge Marie pour ses enfants est plus grand que tous les amours des mères de famille pour leurs enfants. On dit que le plus grand amour, c'est l'amour d'une mère pour son enfant. Eh bien, mettez tous ces amours de toutes les mamans du monde entier pour leurs enfants dans le monde entier, dans toute l'histoire du monde, eh bien, mettez tout ça ensemble, ben, le cœur de Notre-Dame a pour nous plus d'amour encore que l'intégralité de l'amour de toutes les mères du monde entier, dans toute l'histoire de l'humanité, pour leurs enfants. Donc, Très Sainte Vierge Marie est plus grande que tous les hommes, alors qu'elle a une nature humaine. Elle n'a pas une nature angélique, attention. Elle a une nature en soi inférieure à celle des anges. Mais comme elle est celle qui a donné la nature humaine à notre Seigneur Jésus-Christ, par ce don à la divinité, elle va en quelque sorte recevoir de la divinité une prérogative extraordinaire, elle va devenir la reine de tous les anges. Et encore une autre phrase magnifique des pères de l'Église. Dieu aurait pu faire des plus grandes choses que celles qu'il a faites, car rien ne peut être plus grand et meilleur que Dieu lui-même, à l'exception de l'incarnation de la maternité divine, la béatitude de l'homme. Donc, rien ne peut être plus grand et meilleur que Dieu lui-même. Je répète cette phrase. Dieu aurait pu faire de grandes choses, de plus grandes choses que celles qu'il a faites, car rien ne peut être plus grand et meilleur que Dieu lui-même, sauf l'incarnation du Verbe, la maternité divine, la béatitude de l'homme qui consiste en la vision de Dieu. C'est de saint Thomas d'Aquin. Donc Dieu manifeste encore une fois davantage sa grandeur, sa puissance, par l'incarnation du Verbe, par la maternité divine, par le fait qu'il monte l'homme jusqu'au niveau de la vision de Dieu par la gloire, par le salut, et en agissant ainsi, il est encore plus grand que s'il avait créé le ciel et la terre. Rappelez-vous ce que j'ai déjà dit en parlant du Père, il y a plus de puissance manifestée en Dieu par le pardon d'un pécheur repentant au dernier moment que dans la création du ciel et de la terre. Donc sauver Saint Dismas au dernier moment, en disant à Saint Dismas, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis, alors que Saint Dismas venait de lui dire, souvenez-vous de moi Seigneur quand vous serez dans votre royaume. Saint Dismas fait à cause de la grâce de Dieu, attention, à cause de l'intercession de notre Sainte Vierge Marie, fait un acte de foi, d'espérance et de charité, bien ça suffit pour que notre Seigneur Jésus-Christ le prenne au paradis. Et notre Seigneur Jésus-Christ qui prend au paradis Saint Dismas, le bon larron, en le sauvant à la fumée des cierges, fait un acte qui est plus grand que la création du ciel et de la terre. Plus grand que la création de tous les anges. Il n'y a rien de plus beau, justement, que cette application directe de la miséricorde du bon Dieu pour nous. Et donc, les pères de l'Église, ici, saint Thomas d'Aquin, qui est un docteur, qui n'est pas un père de l'Église, mais saint Thomas d'Aquin, met donc la maternité divine au-dessus de tout, justement, parce que la maternité divine divinise littéralement l'homme. En devenant mère de Dieu, la Sainte Vierge Marie devient mère de tous les hommes. Et par la béatitude, l'homme pécheur qui obtient le pouvoir de rentrer dans la divinité par la gloire, bien, cette transformation par la grâce sanctifiante de l'homme pécheur en un homme racheté est la plus belle chose que Dieu puisse faire. Donc, vous voyez, il faut mettre en parallèle ces trois choses, l'incarnation du Verbe, la maternité divine, la béatitude de l'homme qui consiste en la vision de Dieu. Puisque le nom de Dieu est saint, les chrétiens doivent être saints, étant appelés par le Christ à sa sainteté imminente. Son nom est saint, dit la Sainte Vierge Marie. Parce que celui qui est puissant a fait en moi de grandes choses, et son nom est saint. Vous voyez, on voit très bien que notre Sainte Vierge Marie rejette tout sur notre Seigneur Jésus-Christ. Elle ne s'attribue aucune gloire personnelle. Et continue, sa miséricorde se répand d'âge en âge sur ceux qui le craignent. C'est le verset 50 du chapitre 1er de Saint-Luc. Ce n'est donc pas seulement pour Notre-Dame que Dieu a fait de grandes choses, car toute personne qui a la crainte de Dieu est certaine d'obtenir ses faveurs. Une faute d'orthographe. Personne, c'est féminin. Toute personne est certaine d'obtenir ses faveurs à condition de le craindre vraiment. C'est-à-dire d'avoir le repentir qui amène à la foi et à la vraie pénitence. Alors attention, donc on ne peut pas arriver à cette vraie pénitence sans. On ne peut pas arriver à cette glorification au ciel sans avoir la pénitence. Donc Dieu est plein de miséricorde pour les pécheurs pénitents, encore une fois. Dieu n'est pas plein de miséricorde pour le pécheur qui refuse de se convertir. Et c'est ça le crime, un des crimes de Bergoglio, c'est de laisser croire aux gens, de laisser croire aux fidèles que le pécheur est systématiquement sauvé par notre Seigneur Jésus-Christ par la foi. C'est du pur protestantisme. Luther ne disait pas autre chose. Luther et Bergoglio se retrouvent complètement là-dedans. Si tous les hommes sont sauvés parce que tous les hommes ont la grâce, parce que si la grâce est une inséparable de la nature humaine, si la grâce, j'ai déjà expliqué ça, donc je ne reviens pas, si la grâce est naturelle à l'homme, alors tous les hommes sont sauvés, donc tous les hommes sont sauvés par la foi, ça c'est l'enseignement de Martin Luther. Les hommes ne sont pas sauvés par la foi, les hommes sont sauvés par la charité. La charité c'est quoi? C'est justement l'acceptation de la volonté de Dieu, l'acceptation des commandements de Dieu. Ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » et qui sera seul, mais celui qui écoute la parole du bon Dieu et qui la met en pratique. Donc Seigneur, Seigneur, celui qui dit Seigneur, Seigneur, celui qui a la foi, qui reconnaît que la personne à qui il parle est Dieu, donc il l'appelle Seigneur. Mais ça ne suffit pas, il faut mettre tout ça en pratique. Et mettre tout ça en pratique, comment mettons en pratique cet amour que nous devons avoir pour notre Seigneur Jésus-Christ? On le met en pratique justement par l'exercice de la charité. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien, dit saint Paul, relisez la magnifique épître de saint Paul, 1 aux Corinthiens, chapitre 13, si je n'ai pas la charité, je suis comme une cymbale qui retentit au loin, même si je donne ma chair pour être brûlée pour les pauvres, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. C'est-à-dire, si je n'ai pas en moi l'amour du bon Dieu, l'état de grâce, je ne suis rien. Et ça, c'est un crime impardonnable de Bergoglio, de laisser croire aux gens qu'on peut être sauvé par la foi seule, c'est l'abomination de Luther qui est répétée. Donc, ce n'est pas seulement pour Notre-Dame que Dieu a fait de grandes choses, car toute personne qui a la crainte de Dieu est certaine d'obtenir ses faveurs, à condition de le craindre vraiment, je répète, c'est-à-dire d'avoir le repentir qui amène à la foi à la vraie pénitence, alors que ceux qui résistent avec obstination se voient fermer par leur incrédulité la porte de la miséricorde. Donc, la miséricorde et la justice se donnent la main. Les deux choses sont unies. On ne peut pas utiliser l'une sans l'autre, on ne peut pas utiliser la miséricorde sans la justice, on ne peut pas séparer les deux choses. Rappelez-vous la phrase de Mgr Lefebvre qui nous disait souvent, je vous l'ai déjà cité cette phrase, que le plus grand coup du démon, c'est d'avoir fait croire, c'est d'avoir détruit la miséricorde. Et comment il a fait pour détruire la miséricorde? Il a détruit la miséricorde en détruisant la crainte de Dieu. En détruisant la crainte de Dieu, je détruis la miséricorde. Si je détruis la miséricorde, je détruis le salut pour les hommes. En prétendant, comme le fait Bergoglio à longueur de journée, en prétendant que Dieu peut être miséricordieux à l'égard d'un pécheur non repentant, il détruit la miséricorde. Détruisant la miséricorde, il ferme la porte du paradis à tous les pécheurs. Parce que les pécheurs vont rester dans leur péché, au lieu de se chercher à changer de vie, à devenir repentants, et donc rouvrir le contact entre eux et Dieu, ils gardent leur absence de repentance, ils ne regrettent pas leur péché, parce qu'ils ont perdu la crainte de Dieu, et ayant perdu la crainte de Dieu, ils restent dans le péché, restant dans le péché, et ces pauvres gens vont mourir comme des damnés, ils vont mourir comme des renégats en rejetant notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ça qui est terrible. Donc Martin Luther qui prétend sauver simplement par la foi, en fait, amène les gens en enfer. Bergoglio qui prétend que la grâce sanctifiante est naturelle à l'homme. Bergoglio qui prétend qu'un pécheur est sauvé simplement par la foi, sans la charité, c'est-à-dire sans la conversion personnelle, en fait amène les gens en enfer, et c'est exactement ce qui se passe. Versets 51-52, chapitre 1. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui s'enorgueillissaient dans les pensées de leur cœur. Il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles. Vous voyez, on retrouve ici la vertu d'humilité. Parce que le bras de Dieu, c'est le Fils de Dieu qui s'incarne dans la Vierge Marie. Et notre Seigneur Jésus-Christ va s'unir à notre humanité pour qu'on n'ait aucune excuse. Si notre Seigneur Jésus-Christ, je vous l'ai déjà expliqué souvent ça, si notre Seigneur Jésus-Christ nous apparaissait dans toute la gloire de sa divinité, on serait complètement épouvanté. Regardez les apôtres qui ont vu une toute petite partie de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ au Tabor. Ils tombent la face contre terre. Regardez les soldats devant le tombeau le jour de Pâques. Ils voient, c'est bon, l'ange qui vient bouger la pierre pour permettre à notre Seigneur Jésus-Christ de quitter le tombeau juste avant la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui par sa propre force va quitter le tombeau. Qu'est-ce qui se passe? Il tombe la face contre terre, complètement paniqué. Regardez les soldats avec Judas et la foule nombreuse qui est devant notre Seigneur Jésus-Christ au soir du Jeudi Saint. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ leur dit simplement « C'est moi, je suis celui que vous cherchez », ils tombent tous paralysés pour bien montrer la toute-puissance de Dieu. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ renverse les puissants de leur trône et a élevé les âmes. Donc, ce bras de Dieu, c'est le Fils de Dieu qui s'incarne dans la Vierge Marie. C'est tout le miracle de l'incarnation, la force cachée derrière l'humilité. Il a rempli de bien les affamés, versets 53, 54 et 55. Il a rempli de bien les affamés, il a renvoyé les riches, les mains vides. Il a relevé Israël, son serviteur, se souvenant de sa miséricorde, selon qu'il avait dit à nos pères et à Abraham et à sa race, pour toujours. Ici une remarque des pères, Notre-Dame ayant faim et soif de la justice, engendre le Verbe incarné afin que tous les fidèles puissent trouver leur nourriture en la Sainte Eucharistie avant d'aller paître au ciel. C'est pour ça qu'ici-bas, on a besoin de la foi et de l'espérance. Au ciel, il n'y aura plus besoin de foi et d'espérance parce que nous verrons Dieu, nous posséderons Dieu. Ici, pour posséder Dieu, on est obligé de communier. Ce n'est pas la communion qu'on possède notre Seigneur Jésus-Christ. Au ciel, on sera littéralement immergé dans la divinité. C'est quelque chose d'incompréhensible pour nous. C'est pour ça que tous ceux qui ont une vision du ciel, comme par exemple Saint Paul, expliquent bien que les mots humains sont incapables d'expliquer le bonheur des élus. On ne peut pas expliquer avec des mots humains ce que ressentent les élus. Versets 56 à 58, en bas de la page 14. Marie demeura environ 3 mois avec Élisabeth. En fait, puisque lorsque Marie est arrivée, Élisabeth avait déjà 3 mois de grossesse, donc pratiquement elle est restée jusqu'à la naissance. Donc Marie demeura 3 mois jusqu'à la naissance de Saint Jean-Baptiste avec Élisabeth, puis elle se retourna dans sa maison. Donc à la fin de la grossesse de Sainte Élisabeth, à cause de l'âge avancé de Sainte Élisabeth, la Très Sainte Vierge Marie a dû faire tout le travail domestique dans la maison de Saint Zacharie et de Sainte Élisabeth. Elle a dû laver les choses, elle a dû préparer les repas, elle a dû s'occuper de la maison pour aider Sainte Élisabeth qui était âgée, qui ne pouvait pas le faire elle-même. L'humilité de la Très Sainte Vierge Marie, bien qu'elle soit la mère de Dieu, donc largement au-dessus de la sainteté de Sainte Élisabeth, eh bien, elle accepte cette humiliation. Et même au début, au moment de la naissance de Saint Jean-Baptiste, bon, elle va être là pour s'occuper de la naissance, pour permettre à Sainte Élisabeth de donner la vie à Saint Jean-Baptiste dans la meilleure disposition possible, dans la meilleure condition possible. Les pères disent quand même que nous ne savons pas si Notre-Dame est restée jusqu'à la naissance de Saint Jean-Baptiste. L'âme chaste, qui conçoit le désir du Verbe spirituel, doit nécessairement monter au sommet élevé des célestes exercices, y demeurer comme pendant 3 mois, y persévérer jusqu'à ce qu'elle soit éclairée pleinement de la lumière rayonnante de la foi, de l'espérance et de la charité. Donc nous aussi, il faut devenir petit, il faut accepter de servir. De même que la Très Sainte Vierge Marie a servi sa cousine, bien qu'elle soit elle-même d'un bien plus haut degré de sainteté que sa cousine, et bien de la même façon, nous aussi, nous devons servir. Si nous n'apprenons pas à nous humilier pour faire les travaux humbles de nos obligations professionnelles, de nos obligations familiales, de nos obligations sociales, et bien nous ne pouvons pas posséder notre Seigneur Jésus-Christ. Une mère se sanctifie par exemple, en lavant les couches des bébés, en s'occupant avec humilité de rendre la maison présentable, en nettoyant, en lavant des tonnes de linge sale, etc. C'est son moyen de sanctification, c'est ça sa grandeur. Tel point qu'on peut vraiment dire qu'aujourd'hui, en ayant coupé la femme de la maternité, ils ont rendu la femme complètement esclave. On voit très bien avec le féminisme actuel, il n'y a rien de plus anti-féminine qu'une féministe. Les féministes d'aujourd'hui ont complètement détruit la femme. Et donc, cette foi, cette espérance, cette charité vont briller d'autant plus dans l'âme de la Très Sainte Vierge Marie qu'elle a justement cette vertu de chasteté. Alors, les pères ne sont pas d'accord. Il y en a qui disent que la Très Sainte Vierge Marie est restée jusqu'à la naissance de Saint Jean-Baptiste et même quelque temps après. Il y en a qui disent qu'elle est partie auparavant, on ne sait pas. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'elle a passé environ 3 mois. C'est pour ça qu'il y a un terme relativement vague, environ 3 mois, un peu plus, un peu moins. Si c'est un peu moins, la Très Sainte Vierge Marie est partie avant la naissance de l'enfant, de Saint Jean-Baptiste. Si c'est un peu plus, eh bien, à ce moment-là, elle est restée pour cette naissance, qui est sans doute vraisemblable. Page 15, en haut de la page 15. Le temps d'Élisabeth fut accompli, la vie des justes est pleine, tandis que les jours des impies sont vides. Pourquoi? Parce que les mains des impies sont complètement vides. Donc, Saint Jean-Baptiste ayant été sanctifié dans le sein de sa mère, l'Église va célébrer non seulement le jour de son martyre, mais aussi celui de sa naissance, le 24 juin. Ce fut également le cas pour notre Seigneur Jésus-Christ, pour Notre-Dame. Donc cette sanctification de Jean-Baptiste fut obtenue par l'intermédiaire de Marie, médiatrice de toute grâce. Donc l'Église, dans sa liturgie, donc célèbre à la fois la naissance et la mort de Saint Jean-Baptiste, de Notre-Dame et de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que pour les autres saints, elle ne célèbre pas les deux. Célèbre que la mort, qui est en fin de compte le début de la vie. C'est pour cela que dans la liturgie, quand on parle de la mort d'un saint, c'est le jour de la naissance du saint, enfin. En fait, c'est le jour de la naissance de ce saint, parce que ce saint, par sa mort glorieuse, monte au ciel, donc va naître au ciel. Versets 59 et 60. Il arriva qu'au 8e jour, il vint pour circoncire l'enfant. Il l'appelait Zacharie, du nom de son père. Et sa mère, prenant la parole, dit: non, il sera appelé Jean. Et lui dirent, versets 61-63, mais il n'y a personne dans votre famille qui soit appelé de ce nom. Il faisait des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelât. Lui demandant des tablettes, il écrivit Jean et son nom. Et tous furent dans l'étonnement le plus complet. Donc pourquoi? Parce que c'était la coutume, après la circoncision, on donnait le nom à l'enfant. Le nom était imposé à l'enfant au moment de la circoncision. Car il faut renoncer à toutes les choses charnelles signifiées par la circoncision pour être digne de voir son nom écrit dans le livre de vie. Donc pas la circoncision, qui était une purification, équivalent d'un baptême si vous voulez, au moins pour l'Ancien Testament, pas la circoncision. Dans l'Ancien Testament, l'enfant était purifié du péché originel et agrégé à l'Église. Parce que les enfants naissaient aussi avec le péché originel avant notre Seigneur. Donc il fallait bien un moyen d'éliminer ce péché originel. Il n'y avait pas encore le baptême. Eh bien, la circoncision remplaçait le baptême par la foi au Christ à venir. Pas au Christ qui était déjà venu, au Christ à venir. Pour les femmes étaient sanctifiées par toutes les purifications rituelles qui avaient lieu au moment de la naissance. Et ces purifications rituelles, si elles étaient faites avec foi, avaient pour but justement d'incorporer, de permettre plus exactement la purification du péché originel, donc l'agrégation à l'Église. Les pères de l'Église font remarquer que Saint Jean-Baptiste est citoyen du ciel plus que citoyen de la terre, donc il reçut son nom du ciel. C'est le ciel qui intervient directement pour expliquer que le nom de l'enfant n'est pas Zacharie, mais du nom du Père, mais le nom de l'enfant sera Jean, selon la volonté expresse de Dieu. Alors à ce moment-là, on est verset 64, à cet instant précis, donc la bouche de la langue de Saint Zacharie, qui avait été liée à cause de son manque de foi lorsque l'ange lui était apparu dans le temple, pour annoncer la naissance de son fils, Saint Jean-Baptiste, la bouche se délie, sa langue se délie, et il parlait en bénissant Dieu. Et lui aussi va, rempli du Saint-Esprit, comme Saint Jean-Baptiste, comme sa femme, son épouse, Sainte Élisabeth, lui aussi va être rempli du Saint-Esprit et va louer le bon Dieu. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait en bénissant Dieu. Et la crainte s'empara de tous leurs voisins. Et dans toutes les montagnes de la Judée, toutes ces choses étaient divulguées. Et tous ceux qui les entendirent les conservèrent dans leur cœur en disant « Que pensez-vous que sera cet enfant ? Car la main du Seigneur était avec lui. » Et Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Et il prophétisa en disant « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. » Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, ainsi qu'il a dit par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. On voit un petit peu ce que disent les pères de l'Église. Donc, de même que Saint Jean-Baptiste sera la voix qui crie dans le désert, il était convenable que son père recouvre la voix à sa naissance. Il était également contre la raison que le père demeura muet lorsque la voix du Verbe s'était fait entendre. La solennité de sa naissance est le commencement de la grâce du Nouveau Testament. Donc, le Nouveau Testament, même si strictement parlant, le Nouveau Testament va vraiment commencer par les fruits du Nouveau Testament, avec le fait que le grand rideau du temple va se déchirer en deux au moment de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, avec Saint Jean-Baptiste, c'est déjà le Nouveau Testament qui est là. Parce que le Nouveau Testament, c'est le passage de la figure à la réalité. Enfin, le passage de notre Seigneur Jésus-Christ annoncé à notre Seigneur Jésus-Christ qui arrive, qui est là, par son incarnation dans le sein de sa mère. Donc la solennité de cette naissance de Saint Jean-Baptiste est le commencement de la grâce du Nouveau Testament. Tous les os sont alors recouverts de chair, mais les cornes s'élèvent au-dessus du reste du corps. Le règne de Jésus-Christ est donc appelé corne du salut. Parce qu'il domine le monde et les joies de la chair. Et c'est en figure de ce règne que David et Salomon ont été consacrés par la gloire de leur règne avec une corne remplie d'huile. Voilà pourquoi on rencontre ce mot « corne » qui symbolise la force de Dieu souvent dans l'Écriture sainte. D'où le nom, disent les pères, donné au pape et martyr Saint Corneille, car il eut la force de résister à l'empereur Dèce. Dernier verset, je vais expliquer aujourd'hui, versets 71 à 74. Donc il a dit par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens qu'il nous délivrerait de nos ennemis, de la main et de la main de ceux qui nous haïssent, pour exercer sa miséricorde envers nos pères et se souvenir de son alliance sainte, selon le serment qu'il a juré à Abraham, notre père, de nous accorder cette grâce, qu'étant délivrés de la main de nos ennemis, nous le servions sans crainte. Il s'agit évidemment du démon, des ennemis spirituels qui sont bien plus dangereux que les ennemis matériels. Voilà, nous allons arrêter là, puisque j'essaie de bloquer mes cours à 1 heure pour ne pas trop vous en demander. Nous allons terminer par une prière. Au prochain cours, nous terminerons, si Dieu veut, le chapitre 1, commencerons le chapitre 2. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.